France Info.
Bonsoir, faut-il supprimer un jour férié pour financer la dépendance? Le travailler plus, de nouveau en question à la une des informés. Nous reviendrons également sur l'enquête ouverte après le suicidez-vous lancé samedi aux forces de l'ordre sur les attentats terroristes. Au Sri Lanka, 290 victimes au moins, les chrétiens pris pour cible lors du dimanche de Pâques. Enfin, Zelensky élu à la tête de l'Ukraine. Une question, le scénario est-il possible en France? On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous, Flore Sensi-Stéban.
Bonsoir Jean-François.
Vous êtes maître de conférence à Sciences Po, Paris, et membre du CEVIPOF. À mes côtés également, bonsoir et bienvenue, Caroline Hardy.
Bonsoir.
Directrice conseil chez Tilder, et également invité ce soir les deux partenaires du lundi désinformé. Bonsoir François Dorcival.
Bonsoir Jean-François.
Éditorialiste politique à Valeurs Actuelles, et Patrice Moyon. Bonsoir Patrice.
Bonsoir Jean-François.
Bienvenue, ravi de vous revoir. Chroniqueur économique et social et éditorialiste à Ouest France. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et à la TV sur le canal 27 de la TNT. Les Français devront-ils travailler plus? Voilà donc le débat tous azimuts qui monte à 3 jours de la conférence de presse présidentielle censée tourner la page de 5 mois de crise des Gilets jaunes. Débat multiforme qui touche au temps de travail, à l'âge de départ à la retraite et à l'instauration d'une hypothétique deuxième journée de solidarité pour financer la dépendance, piste lancée hier dans les colonnes du JDD du journal du dimanche par la députée des Yvelines et porte-parole de La République En Marche, Aurore Berger. Alors d'accord, pas d'accord, pour poser le débat, écoutez ces témoignages.
Personnellement, je serais d'accord, parce qu'il y a déjà pas mal de jours fériés, et puis je crois que tout le monde doit faire des efforts.
Je ne pense pas qu'on ait envie de travailler plus, je pense qu'on n'est pas assez payé pour ce qu'on fait, donc on ne va pas en plus travailler sans être payé, non ?
On parle de fraternité, égalité, ben voilà, donc ceux qui peuvent, enfin, dans la mesure de leurs moyens, ben voilà, pour nous, ben, enfin pour moi par exemple, donner un jour férié, pourquoi pas.
Allez, c'est parti pour le tour de table avec vous, Caroline Hardy, d'accord, pas d'accord ?
Alors, plutôt d'accord. Je pense que ce sera peut-être pas forcément simple. On se rappelle du grand débat déjà qu'on avait eu il y a quelques années autour du lundi de Pentecôte. Finalement, aujourd'hui, c'est plutôt rentré dans les mœurs. Donc, pourquoi pas?
C'était il y a 15 ans.
Pourquoi pas? On a beaucoup de jours fériés. Donc, plutôt d'accord.
François Dorcival, est-ce que ce débat, selon vous, compte pour les Français? Supprimer un jour férié supplémentaire?
Sûrement, ça compte pour les Français. Maintenant, vous l'avez bien posé. C'était travailler plus ou pas? Là, oui, on sait très très bien que l'âge d'activité ne cessant de se prolonger, il faudra de toute façon travailler de plus. Est-ce que ça signifie supprimer un jour férié? Je rappelle que nous en avons 11 dans l'année. Je crois que les Français ne l'admettront pas vraiment. Parce que le débat sur la Pentecôte, vous avez eu raison de le rappeler, n'a pas vraiment fonctionné. Et surtout, c'est cette idée de gratuité. Ça ne colle pas. On ne travaille pas gracieusement. Ce sont des corvées. Et ça renvoie à l'ancien temps. Et donc, travailler plus pour gagner plus, ça, oui, bien sûr, c'est la base.
Flore Sensi-Stéban, la majorité des Français, courte majorité, 54%, indiquait le journal du dimanche et IFOP hier, plutôt opposé à cette idée.
Oui, alors plutôt opposé à cette idée, encore qu'il faut distinguer de quel salarié on parle. Est-ce qu'on parle des agents publics? Est-ce qu'on parle des agents privés? Est-ce qu'on substitue l'allongement de départ en retraite? Est-ce qu'on essaie d'y substituer ça par un jour de congé qu'on... D'ailleurs, on ne peut pas, et c'est vrai, François Dorcival a raison, on ne peut pas demander aux gens de travailler sans être payés. Donc, il y a un vrai...
Pour vous, c'est pas la bonne idée?
Alors non. Et puis alors, je vais vous dire, en plus, je suis très très mal à l'aise avec ça, parce que vous posez très bien le débat, et c'est vraiment pas le sujet. Et de ce point de vue-là, France Info a fait son travail en fuitant l'allocution présidentielle. Mais je suis très 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 gênée depuis le début de la semaine, parce qu'en fait, on est dans un temps où on ne sait pas de quoi on parle, on ne sait pas véritablement si les mesures qui ont
été... Là, pour le coup, nous commentons une mesure qui est annoncée dans le journal du dimanche par une députée porte-parole de La République En Marche. Donc
oui,
c'est du concret.
J'entends que ce soit Aurore Berger, mais je ne pense pas qu'elle ait le mandat gouvernemental, si vous voulez. Donc,
oui. C'est pas le président de la République.
Non.
Voilà. Donc, je suis assez gênée avec ce débat, je dois vous le dire.
Allez, Patrice Moyon, il y a quand même des chiffres à rappeler. Hein, la dépendance, c'est 30 milliards par an.
Oui, je crois qu'il y aurait au moins déjà 10 milliards d'euros à trouver chaque année. Et je trouve que la question. En plus. Et je trouve que le débat, là, est très mal posé. Je pense que la question de la dépendance mérite un vrai grand débat national. On l'a reporté depuis plusieurs années. Donc, avant de parler de la suppression d'un jour de congé, je pense qu'on devrait d'abord avoir un grand débat sur la dépendance et son financement, parce que c'est effectivement l'enjeu des années qui viennent. Et là, je crois qu'on est très, très mal parti.
Quelle serait peut-être une piste, une solution, selon vous? Parce que la dépendance, eh bien, cela va aller, comme le rappelait François Dorcival, le croissant dans ce pays.
A priori, les Français ne sont pas contre l'idée de travailler plus. Revanche, l'idée de toucher à un acquis qui est le jour férié, qui est vraiment une notion très sacrée, une symbolique forte dans le droit du travail français, semble intouchable. Là où l'idée de travailler plus durant les jours de semaine semblerait plus acceptable.
Ouais, l'idée du jour férié, François Dorcival, c'est cette idée selon laquelle on a peu de marge de manœuvre, il n'y en a plus, les caisses sont vides, et soudain on va chercher en inversant la charge, je veux dire, on travaille gratuitement.
Mais non, et d'ailleurs, qu'est-ce que ça fait rentrer de travailler
2 milliards et demi, je me tourne vers...
Voilà. Oui, donc, c'est ça, 2 milliards et demi, donc on sait déjà que ce ne sera pas suffisant.
Nous ne sommes pas la dimension du sujet. Voilà. Donc c'est un mot masque. On masque un vrai débat en nous créant des polémiques sur travailler un jour férié.
Vous y voyez un ballon d'essai, vous?
Même pas. En revanche, oui, l'affaire des 35 heures est posée depuis que ça existe, c'est-à-dire depuis 2001. En dehors de ça, l'allongement de la durée de travail, malheureusement, est évidente. Cela dit, tout est adapté à des questions qui sont des questions d'activité, qui sont des questions de métier, qui sont des etc., de conventions collectives. Mais nous n'échapperons pas à travailler plus.
Allez, 20h10 sur France Info, une pause avec vous. Le rappel de l'info, Jules De Kiss.
Le vent tourne pour les proches de l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika. 5 milliardaires proches du régime ont été arrêtés dans une enquête anticorruption. L'armée, qui se porte garante de la transition, avait annoncé que de telles arrestations auraient lieu. Un Français tué dans les attentats au Sri Lanka hier, annonce le gouvernement du pays. Dernier bilan, près de 300 morts et 500 blessés. Après ces attaques, l'impact sur le tourisme est considérable, explique un expert interrogé sur France Info. Presque tous les tours opérateurs ont annulé les voyages dans les jours à venir. Des faits d'une extrême gravité, selon le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Il réagit à la découverte de tags sur la gendarmerie de Landivisiau dans le Finistère ce matin. Le slogan « Suicidez-vous », celui que des gilets jaunes ont chanté à la police samedi à Paris. Plus de policiers que d'habitude ce soir dans les quartiers du Breil, de Bellevue et des Dervalières à Nantes. La préfecture renforce son dispositif après plusieurs rafales de Kalachnikov ce week-end dans ces quartiers. Elles ont fait 4 blessés la nuit dernière. 2 départements encore en alerte à la pollution de l'air en Bretagne, le Finistère et les Côtes d'Armor. Ciel chargé de particules en Normandie, dans le Nord et le Pas-de-Calais également. Les autorités recommandent d'éviter une activité physique trop intense.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors qu'en pensent nos candidats aux élections européennes? Vous allez entendre qu'en pensent nos candidats de cette proposition d'un jour férié pour financer la dépendance. Vous allez entendre successivement 2 têtes de liste aux européennes. Nathalie Loiseau pour la liste Renaissance, La République en marche sur LCI et Benoît Hamon pour Génération qui était l'invité de RTL.
À l'évidence, il faudra qu'on travaille davantage pour pouvoir mieux soutenir nos aînés. On ne peut pas leur dire que les temps ont changé et que finalement, pas de chance pour eux, ils vivent plus vieux, mais on les laisse de côté, on les laisse tomber.
Pourquoi est-ce qu'on passe sous silence le fait qu'il a été démontré que les 35 heures ont créé 500 000 emplois? Mais allons au-delà. Vous avez aujourd'hui un chômage avec 5 millions de personnes. Ceux qui veulent qu'on travaille plus, c'est-à-dire que ceux qui ont un travail travaillent plus, sont à contresens de ce qui se passe.
Patrice Moyon, le débat, même s'il peut sembler un brin artificiel, comme le disait Florence Anciteban, a peut-être au moins le, disons, l'avantage de pointer le, les deux systèmes, qui, les deux formes de pensée politique qui s'affrontent dans ce pays, finalement. Travailler plus longtemps à droite et, quelque part, partager le travail à gauche.
Oui, effectivement, c'est un sujet qui divise la scène politique française depuis les lois Aubry. Est-ce que, d'abord, la première question, c'est, il faut se souvenir que les lois Aubry, c'était pour créer des emplois. On a vu qu'effectivement, il y avait, comme l'a rappelé Benoît Hamon, il y a eu des créations d'emplois, mais ça, les 35 heures aussi contribué à la désorganisation des conditions de travail dans les hôpitaux. Maintenant, moi, je pense que surtout sur ces questions-là, on devrait prendre vraiment poser les questions, parce que par exemple, sur la question de la dépendance, c'est vraiment, on devrait réussir à recréer de la cohésion française autour de cette question qui concerne l'ensemble de la société française. Donc, déjà faire partager les enjeux et ensuite poser la question.
Les enjeux d'abord et les moyens ensuite.
Et ensuite les moyens.
Florence Anciteban, sur cette question du temps de travail, nous sommes abreuvés de comparatifs avec ce qui se passe chez les voisins européens et ailleurs, avec des statistiques dans tous les sens. Quelle est l'idée selon vous? Est-ce que les Français sont prêts à travailler plus?
Mais vous savez, les Français sont les salariés les plus productifs d'Europe.
Donc la
question. À l'heure. Donc la question n'est pas celle, à mon sens, du temps de travail, c'est celle de la productivité. Donc si vous faites travailler les gens plus longtemps, vous avez aussi un risque qu'ils soient moins productifs. Donc je vous le dis, c'est vraiment pas, c'est en général, hein, mais c'est vrai que la nature a horreur du vide et que depuis le début de la semaine, on est en train de commenter et d'analyser, de décrypter des mesures qui viennent, qui de la majorité parlementaire, qui des agences de presse, qui...
Vous acceptez l'idée selon laquelle les fuites en question mardi dernier, eh bien, n'étaient que, au fond, le script de ce que le président avait enregistré.
Mais
c'était
bien
une
sûr.
Fuite.
Mais
donc,
attendez,
nous
mais...
commentons pas du vide, nous ne commentons pas du vide, nous commentons des annonces qui allaient être
mais sur
faites.
La... Je suis d'accord avec vous, Jean-François, et vous faites votre travail de journaliste, mais ce que je déplore, c'est la forme. C'est l'amateurisme dont fait preuve ce pouvoir. Je suis désolée, mais tout peut arriver jusqu'à la dernière minute. Donc, vous n'envoyez pas, à quelques journalistes d'ailleurs, que vous triez sur le volet, une allocution présidentielle, alors que ça fait 3 mois que la parole présidentielle est entendue.
Attendue
et très attendue. Oui. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, je suis très mal à l'aise à vous répondre sur le fond, parce que je trouve la forme déplorable.
Caroline Hardy, sur ce qui s'est passé la semaine dernière, des fuites, après tout, le discours était enregistré, on ne va pas le redire ici ce soir, il s'agit de véritables fuites. Est-ce qu'il y a eu une gestion un petit peu hasardeuse de ce qui s'est produit?
Alors, faudrait le demander et en discuter avec les conseillers d'Emmanuel Macron. Pour l'instant, le doute visiblement semble flotter, ou du moins ils l'entretiennent. Ce qui est sûr, c'est que clairement, il essaie de rattraper et de reprendre le contrôle du timing en préparant, a priori, là maintenant, une grande conférence sociale et environnementale ce jeudi. Donc, il essaie de rattraper son temps d'annonce loupé de la semaine dernière sur les fuites en question. Malheureusement, ça ne remet pas, là on parlait du débat des 35 heures, le vrai sujet c'est qu'elles ont été détricotées un certain nombre de fois par les gouvernements précédents et aujourd'hui on réouvre le débat.
Oui. Alors, on a tous vu ces images de bains de foule, elles sont diffusées pour ceux qui nous regardent et pour ceux qui nous écoutent aussi, je le précise, du chef de l'État, c'était ce week-end au Touquet, bains de foule, acclamé par une foule de supporters. François Dorcival, le chef de l'État avait besoin d'images positives pour essayer de rattraper un petit peu ce qui s'est produit ces derniers jours. Il essayait d'inverser un petit peu la tendance.
D'inverser la tendance? Non, je trouve pas. Et c'est naturel. Il est chez lui et donc que la foule qui soit autour de lui le salue et le salue amicalement. Il y a rien là d'extraordinaire. Qu'il en ait besoin probablement, mais la semaine dernière n'a pas été une semaine désastreuse pour lui. Il s'est prononcé comme il le fallait. Il s'est adressé aux Français comme il le fallait au moment de cette formidable vague et élan qui s'est produit dans l'opinion à l'occasion de
l'incendie de Notre-Dame de Paris. Oui.
Mais une fois qu'on a dit ça, quand vous entendez Nathalie Loiseau, vous entendez Aurore Berger, vous entendez tous les commentaires qui ont été faits la semaine dernière dans la majorité à propos de sujet central qui est la dépendance, mais pas seulement la dépendance, le financement des retraites. Financement des retraites, c'est 340, 350 milliards les pensions, plus les 10 milliards de tout le monde de la dépendance.
tout le monde vous a dit on n'échappera pas à travailler plus. La question, c'est quel est le critère que l'on choisit ? Quel est le point central sur lequel on se met ? Je continue de dire que cette affaire de jours fériés n'est pas loin de là.
Ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, ni suffisante,
ni bonne, ni quoi que ce soit. En revanche, je suis intimement convaincu que si on ne veut pas allonger l'âge de la retraite, le sacro-saint 62 ans ou 63 ans, et aller à 65, eh bien, on trouvera d'autres systèmes.
Les retraites
à points, notamment, c'est évident. Vous pouvez partir à l'âge que vous voulez, mais vous n'avez pas la retraite que vous auriez si.
Patrice Moyon, ce débat permanent sur, on entendait Benoît Hamon tout à l'heure, sur partager le travail au fond, c'est-à-dire poursuivre quelque part l'œuvre, la foulée des 35 heures. Est-ce que ce débat a encore lieu aujourd'hui ? Est-ce que, comme l'affirme, et pour poursuivre ce que dit François Dorcival, il est inéluctable d'estimer que nous allons travailler plus ? C'est une vraie question hein, que chacun se pose, y compris votre serviteur.
Écoutez, il y a beaucoup d'incertitudes sur le marché du travail de demain, hein. Notamment avec l'intelligence artificielle, on ne sait pas combien d'emplois seront détruits. On sait qu'en revanche, qu'on va devoir financer ces retraites et qu'on va devoir financer la dépendance. Comment est-ce qu'on fait ? Je trouve que moi, ce qui est un peu préoccupant pour la France, c'est que on a du mal à, on est dans la réaction tout le temps. Et on pose pas les grands enjeux. Donc là, la question des, et puis là, on est en train de tout mélanger. On avait un énorme dossier qui était celui des retraites. Donc il faut conduire,
qui est toujours en cours, hein.
qui n'est pas réglé. Donc il faut mener à son terme, qui est maintenant percuté par la question de la dépendance. Or c'est un autre sujet, mais là encore, on est dans le vieillissement de la population. Donc posons les choses tranquillement et essayons de voir. Par exemple, travailler plus longtemps, très bien, mais ça pose aussi la question des conditions de travail pour qu'on puisse travailler jusqu'à au-delà de 62 ans, encore faut-il être en mesure de le faire. C'est toute cette réflexion qu'il faut conduire.
Allez, 20h20 sur France Info, rappel de l'info et on se retrouve juste après avec vous, Jules De Kiss.
Le combat contre le terrorisme islamique est aussi celui de l'Amérique, réagit Washington après les attentats au Sri Lanka. 4 Américains et 1 Français font partie des 290 morts. Donald Trump a appelé son homologue sri-lankais pour lui faire part de ses condoléances. Le gouvernement du pays attribue les attaques à un mouvement islamiste local. Les observateurs internationaux, notamment l'OSCE, saluent une élection pluraliste en Ukraine, des libertés fondamentales respectées. Rien à redire donc après l'écrasante élection du comédien Volodymyr Zelensky hier. 73% des voix contre le sortant Petro Poroshenko, qui espère maintenant inverser la vapeur aux élections législatives d'octobre. Fin de garde à vue et placement en détention provisoire pour Carlos Ghosn, l'ex-patron de Renault-Nissan, de nouveau inculpé au Japon, cette fois-ci pour des soupçons de détournement de fonds, une somme de 5 millions d'euros selon les juges à Tokyo. Les avocats du dirigeant français déposent une nouvelle demande de libération sous caution. Le journaliste indépendant Gaspard Gland sera convoqué par un juge après son arrestation samedi lors d'une manifestation de Gilets jaunes. Il a été libéré après une garde à vue pour outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il aurait fait un doigt d'honneur aux policiers. Puis Samsung reporte le lancement de son téléphone à écran pliable. Il devrait avoir lieu en fin de semaine, un gadget technologique à 2000$, mais plusieurs des journalistes qui devaient l'essayer ont fait des retours catastrophiques, des écrans cassés et inutilisables au bout de quelques jours.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Jules De Kiss évoquait un instant ce samedi de manifestation des Gilets jaunes, un slogan hostile aux forces de l'ordre aura marqué les esprits samedi. Suicidez-vous. Le parquet de Paris a donc ouvert une enquête. L'indignation de Frédéric Pechnard, candidat sur la liste Les Républicains aux Européennes et surtout ancien DGPN, directeur général de la police nationale. Il était l'invité de France Info ce matin.
C'est incompréhensible, c'est honteux, c'est scandaleux. Je vous dis, j'ai pas de mots, ça me dépasse. C'est-à-dire que je comprends que les gens veuillent manifester, je comprends que parfois on puisse être confronté aux forces de l'ordre qui, rappelons-le quand même, sont juste là pour faire en sorte que les choses se passent bien. Alors les insultes, les provocations à ce point-là, c'est scandaleux. D'ailleurs, on peut vraiment se poser la question de savoir si tout ça n'est pas quelque chose de délibéré. On voit bien qu'il y a une espèce de radicalisation d'un certain nombre de personnes dans ce mouvement des Gilets jaunes, ce que les services de renseignement appellent les ultra-jaunes et les black blocs. On voit bien que là, ils cherchent l'affrontement, ils cherchent la difficulté.
Florence Esteban, la haine anti-flic, il faut dire les choses telles qu'elles sont, est montée d'un cran dans ce pays.
Oui, alors moi je suis assez d'accord avec Frédéric Pechnard, si je dois le rejoindre, sur le début de son raisonnement, c'est-à-dire effectivement le fait que on arrive à, que c'est absolument scandaleux, que vous ne pouvez pas, c'est de la provocation au suicide en fait de faire ça. Et c'est une infraction pénale. Donc de ce point de vue-là, je le rejoins. En revanche, je ne ferai pas l'amalgame entre les ultra-jaunes ou Black Bloc et les gilets jaunes.
Ouais.
Et lui, j'ai le sentiment que quand même, dans son intervention, c'est ce qu'il fait. Donc oui, c'est inadmissible. Non, ce ne sont pas les gilets jaunes qui sont solidairement responsables de ce type de comportement. Je pense qu'il faut faire preuve de mesure et ne pas tout caricaturer.
François Lorcival, vous faites le même distinguo ou ?
Écoutez, je comprends très très bien ce que nous dit Fleur à l'instant. Bien sûr que les gilets jaunes se défendent de ne pas devoir être assimilés à cela. Mais je dois dire que la semaine dernière, j'ai été très naïf. Pourquoi l'ai-je été ? Parce que je pensais que les gilets jaunes s'abstiendraient de manifester le samedi de Pâques. Je pensais qu'ils observeraient, eux aussi, comme toute la France, et en particulier la France politique, une sorte de trêve pascale. Et je me suis donc profondément...
Vous êtes trompé là-dessus.
Trompé, oui. Mais au-delà de ce que j'imaginais, puisque c'est ce samedi-là, particulièrement, qu'ont surgi de la foule les cris que nous condamnons et que la France entière condamne, à l'exception de quelques minorités aujourd'hui. Et ça traduit un état mental de notre société qui est tout de même tout à fait extravagant.
Caroline Hardy, on a la sensation qu'on ne peut plus sortir de ce qui s'installe comme une sorte de tradition, c'est la manifestation du samedi.
C'est la manifestation du samedi, mais c'est surtout qu'elle se manifeste pour le coup par une dégradation progressive de l'image du mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire, on n'est même plus d'ailleurs dans un problème d'image du mouvement des Gilets jaunes, on est dans un problème de compréhension de ce mouvement, puisque on y met tout et n'importe quoi, y compris des violences verbales telles que celles qui ont eu lieu samedi. Donc on perd complètement le fil du mouvement. C'est un vrai sujet. Ouais.
Patrice Maillon, là-dessus, que dites-vous ?
Moi, je trouve que, enfin, moi, je ressens une infinie tristesse hein, d'entendre ces propos-là. Et puis, quand même, c'est ce tag sur la gendarmerie de l'Andivisio, hein, flic suicidé à moitié pardonné. Cette organisation de manifestation que plus personne ne maîtrise semaine après semaine est en train de créer un climat de violence dans ce pays que je trouve, moi, plutôt inquiétant.
Et dans ce samedi de mobilisation des Gilets jaunes, il y a eu ce qui était évoqué par Jules Dequisse tout à l'heure, cette interpellation suivie d'une garde à vue qui a enflammé les réseaux sociaux, celle de Gaspard Glanz, qui a été donc relâché, remis en liberté. Là-dessus, François Dorcival, que dites-vous, alors que nous montrons, hein, pour ceux qui nous regardent, hein, les images de cette altercation, interpellation, il aurait eu un geste en direction des forces de l'ordre qui a pu peut-être...
être mal interprété, qu'on n'avait pas bien compris,
voilà,
qu'on aurait dû, etc. Moi, je suis frappé quand même que, enfin, nous sommes dans l'outrage concernant les tags et les chants qui ont été proférés samedi, place de la République. Mais il a quand même fallu 48 heures pour que on en vienne à l'incrimination pour outrage. Jusque-là, on se posait la question, est-ce qu'on va pouvoir le prouver ? Est-ce que c'est bien adapté ? Est-ce que notre droit, etc. Et à force de laisser faire et de laisser dire n'importe quoi, on aboutit à ce résultat.
Florence Esteban, là-dessus, sur ce débat, au fond, qui est quasiment impossible aujourd'hui entre des manifestants qui attendent des annonces fortes et les forces de l'ordre qui sont en face, qui sont prises elles-mêmes pour cible.
Oui, mais les forces de l'ordre ne sont pas là pour apporter une réponse politique, malheureusement. Et depuis 3 mois, elles sont en première ligne. Donc Emmanuel Macron doit reprendre la main, il est responsable, tout comme Christophe Castaner est responsable. Ce sont eux qu'on attend pour des réponses politiques qui mettront fin au désordre et qui, je l'espère, établiront une forme de concorde sociale.
Caroline Hardy, vous êtes d'accord avec ça?
Entièrement d'accord avec vous, ouais. Bien sûr. Nous profitons, je pense, tous de ce micro pour rendre hommage aux policiers qui nous protègent tous les jours. Et on est tous d'accord pour déplorer ce qui se passe.
Patrice Moyon, rapidement.
Encore faut-il que la réponse politique soit satisfasse les gilets jaunes, et là on voit pas très bien ce qui pourrait les satisfaire.
Ouais, j'ai l'impression que nous disons à peu près la même chose chaque soir depuis maintenant bientôt 5 mois. Allez, nous allons marquer une pause et nous nous retrouvons dans quelques minutes pour la suite des informés. Nous évoquerons évidemment la vague d'attentats qui a frappé le Sri Lanka. Tout de suite.
Pollen, acariens, bactéries, virus, moisissures, poils d'animaux, formaldéhyde, tous ces polluants et allergènes sont retrouvés dans nos maisons. En fait, l'air intérieur peut être 5 fois plus pollué que l'air extérieur. La bonne nouvelle est que le purificateur Dyson PureCool capture plus de 99% des particules aussi fines que les virus chez vous pour que vous ne les respiriez plus. Dyson PureCool, changez d'air. Pour en savoir plus, visitez Dyson.fr. Testé par l'Institut Pasteur de Lille sur le virus H1N1 en septembre 2018.
Le jeudi 25 avril à 20h, à l'Auditorium de Radio France, les solistes de l'Orchestre National de France sont à l'honneur. De la découverte du rare concerto pour sept instruments à vent, percussions et cordes, de Franck Martin, au très virtuose concerto pour orchestre de Bartok, et une touche d'humour avec la symphonie dite classique de Prokofiev dirigée par Emmanuel Krivine. Réservation, maisondelaradio.fr. Entrez au cœur du concert.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose fabriquées en France. À retrouver sur malongo.com.
La météo, les prévisions, avec vous, Élodie Calac pour Météo France.
Instable avec du vent et des pluies autour de la Méditerranée, dès ce soir et cette nuit, elles deviennent plus soutenues et parfois orageuses sur le Languedoc-Roussillon. Elles persisteront demain matin. L'après-midi, la Provence et la Côte d'Azur seront les plus exposées. Sur le reste du pays, il faudra composer avec les nuages, quelques averses, parfois un orage l'après-midi. Les averses seront plus musclées sur l'Aquitaine, avec des orages parfois forts, de la grêle en prime, pour avoir du soleil en ira de la Basse-Normandie vers la région parisienne et la Franche-Comté le matin, du nord de la Seine à l'Alsace toute la journée. Les températures resteront agréables, 9 à 14 degrés le matin, l'après-midi 17 à 22 degrés sur l'ouest, le tiers sud, encore 22 à 26 degrés sur un grand quart nord-est, Île-de-France comprise.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
France Info, il est 20h30, toute l'info avec vous. Bonsoir Guy Registe.
Bonsoir à tous. Faudra-t-il travailler plus pour compenser la baisse d'impôts et financer la dépendance? C'est l'équation que doit résoudre Emmanuel Macron, qui envisage de demander aux Français de travailler davantage. Il doit s'exprimer jeudi pour clore le grand débat. Parmi les pistes à l'étude, la suppression d'un nouveau jour de congé, ce que défend le député LREM du Rhône, Bruno Bonnel.
Le sujet essentiel, c'est la dépendance, c'est notre société qui vieillit, et trouver des solutions pour que des gens justement ne vivent pas en situation désespérée les dernières années de leur existence. Donc arrêtons de qualifier de mouvements électoraux, de promesses aléatoires. La réalité, c'est qu'on a un problème de société. Soit on en fait un déni de réalité. On peut continuer. Depuis 40 ans, nous sommes dans un déni. Depuis 40 ans, on entend dire il faut financer ceci, il faut financer cela. Il n'y a pas eu de décision d'ailleurs prise ni à droite ni à gauche. Le moment où le gouvernement décide effectivement de tenter quelques pistes, avant même qu'elles aient été décrites par le chef de l'État, c'est-à-dire avant jeudi, on commence à commenter est-ce que ça va financer d'autres choses. À mon avis, il n'y a pas de solution miracle qui viendrait d'une espèce de fantasme, de surimposition, je ne sais pas qui. Évidemment, il faut rééquilibrer de la justice sociale, mais en même temps, il faut baisser la pression, il faut baisser la dépense publique, il faudra travailler plus pour générer plus de valeur, tout simplement.
Bruno Bonnel, député LREM du Rhône. Dans le Gard, une soixantaine de tombes ont été profanées ce matin dans un cimetière hier à Saint-Julien-de-Cassagnas. Des croix ont été cassées et renversées, a indiqué le sous-préfet d'Alès. C'est une personne venue se recueillir sur les lieux qui a fait les constatations. Une enquête a été confiée aux gendarmes. Une plainte va être déposée par Monseigneur Patrick Chauvet, recteur de Notre-Dame de Paris, après l'incendie qui a ravagé la cathédrale il y a une semaine. Une plainte pour destruction involontaire pour que les assurances puissent fonctionner et savoir exactement ce qui s'est passé, a-t-il précisé. L'État ne réagit pas à la hauteur des enjeux, a indiqué sur France Info Olivier Blanc, président de l'association Respire, alors que plusieurs départements sont en alerte rouge à la pollution aux particules fines. C'est le cas notamment du Nord, du Pas-de-Calais et de deux départements en Bretagne, les Côtes-d'Armor ou encore le Finistère. Au Sri Lanka, au moins 4 Américains ont été tués après les attentats de dimanche à Colombo qui ont fait 290 morts et 500 blessés. C'est ce qu'a annoncé le département d'État. Un Français figure aussi parmi les victimes selon le gouvernement sri-lankais. Et puis au Japon, un espoir de libération qui s'éloigne de plus en plus pour Carlos Ghosn alors que son avocat en a fait la demande pour une libération sous caution. L'ex-patron a été mis en examen pour une 4e fois. À bientôt 20h33 sur France Info. C'est la suite des informés avec Jean-François Akili.
20h21h, France Info, les informés, Jean-François Akili.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités, Florence-Cécile Théban, maître de conférence à Sciences Po, membre du CEVIPOF, avec Caroline Hardy, directrice conseil chez Tilder, avec François Dorcival, éditorialiste politique à Valeurs Actuelles, et avec Patrice Moyon, chroniqueur économique et social et éditorialiste à Ouest-France. Les attaques simultanées rappellent les heures noires du terrorisme à la Ben Laden. 290 morts, 500 blessés au moins. Un ressortissant français qui figure parmi les victimes au Sri Lanka dans ce déchaînement de violence imputé par les autorités à un mouvement islamiste local. Retour sur ces attentats d'une ampleur inédite et vous réagissez ensuite.
C'est un moment très triste, une attaque très lâche, atroce, à un moment où des gens innocents adoraient Dieu, en ce jour saint du dimanche de Pâques.
Hier, en début de matinée, 6 explosions retentissent dans des hôtels de luxe de la capitale et 3 lieux de culte. Des attaques quasi simultanées avant 2 autres déflagrations dans l'après-midi. Au nord de Colombo, cette église était bondée lorsqu'un kamikaze est entré, selon des témoins.
Des membres de ma famille étaient assis dehors parce qu'il y avait beaucoup de monde à l'intérieur. Et ils ont vu arriver un homme très jeune. Il semblait très innocent, très calme, avec un sac lourd comme celui-là. Et soudain, ils ont entendu l'explosion.
Voilà donc pour les faits, François Dorcival, les chrétiens, une fois de plus, visés.
Les chrétiens, une fois de plus visés, puisqu'ils l'ont été en effet au cours des années récentes, en Égypte notamment, et dans d'autres pays. Là, nous sommes au Sri Lanka, c'est l'ancienne Ceylan, et c'est pas un pays où sévissait l'hostilité religieuse à l'égard du million de chrétiens qui habitent cette île. Et dans le même temps, on est obligé d'observer la véritable organisation de ces attentats. Non seulement le choix du jour, mais l'organisation, la simultanéité de l'horaire, le fait qu'on est attaqué à la fois des hôtels qui accueillent beaucoup de touristes et les églises qui accueillent les fidèles. Et c'est la simultanéité de ces attentats a été pratiquée par des terroristes suicides. On appelle ça des kamikazes, mais c'est pas vraiment ça. Les terroristes suicides. Or, cela exige un recrutement, une manipulation intellectuelle, un enrôlement de sectaires qui prouve que cette organisation-là a des capacités certainement aujourd'hui négligées ou sous-estimées.
Oui, alors que Caroline Hardy, hein, ce pays est sorti il y a une dizaine d'années d'une trop longue guerre civile, ça a duré un quart de siècle entre le pouvoir sri-lankais et les fameux tigres tamouls. Oui. Ce pays, le Sri Lanka, commence à s'ouvrir largement au tourisme. Est-ce que c'est une destination qu'il faut désormais éviter ?
Alors c'est peut-être un petit peu tôt, c'est peut-être un petit peu tôt pour le dire. C'est sûr que là, en fait, il y a un effet de surprise aujourd'hui qui est assez fort, puisque le Sri Lanka est un pays qui est connu pour être, du moins pour faire preuve d'une assez grande tolérance religieuse. Mmh. L'Église catholique est particulièrement connue aussi pour être unificatrice, notamment entre le côté, j'allais dire, Sinhala et le côté tamoul. Oui. Le fait est que ces dernières années, il y a une forme d'islam radical qui est apparue dans ce pays, notamment parce qu'il y a des ouvriers qui partaient sur des chantiers du BTP dans les États arabes et qu'ils y ont rencontré en effet des personnes qui ont pu les influencer, et de retour en effet au Sri Lanka une forme, j'allais dire, d'intolérance par rapport à l'ouverture religieuse de ce pays.
Une forme d'importation de la radicalité.
Le pays est essentiellement bouddhiste aujourd'hui, oui, la communauté catholique.
10% de bouddhistes, 22 millions d'habitants. Donc voilà. Florence Sistéban.
Alors, si vous voulez, pour moi, cet attentat, c'est un attentat dont le message est universel et universalisable. Parce que je le vois pas sous l'angle nécessairement interne au Sri Lanka. Je vous rappelle que la chrétienté, c'est la première religion mondiale. Et qu'elle soit attaquée un jour de Pâques, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est un signe qui est envoyé, un signe que les persécutions contre les chrétiens vont continuer. Qu'ils soient catholiques, qu'ils soient protestants, qu'ils soient orthodoxes. Et en réalité, c'est pas simplement une affaire interne au Sri Lanka, c'est un signal qui est envoyé sur une lutte qu'on pensait peut-être plus pacifiée envers les chrétiens. Et c'est le symbole de Pâques, surtout, qui me fait réagir comme ça, et le nombre de morts, et je dirais aussi le procédé. C'est-à-dire que vous rentrez dans une église avec des gens qui sont désarmés, vous posez une bombe au milieu et vous faites le plus grand nombre de dégâts possible. Pour le pays, le Sri Lanka lui-même, c'est terrible, mais je dirais que le message en ce jour de Pâques est universel et universalisable.
Patrice Moyon, que dites-vous? Vous êtes d'accord avec Florence Sistéban?
Ce qui est très inquiétant, c'est qu'on voit que le terrorisme islamiste, c'est comme des cellules cancéreuses, c'est-à-dire qui essaiment partout dans le monde entier, sans structure centralisée, donc avec des petits groupes qui commettent des attentats. Et effectivement, là, l'objectif, c'est bien de diviser aussi ces habitants du Sri Lanka, puisque les catholiques sont effectivement dans la communauté à la fois singhalaise et tamoule. Et donc, oui, c'est plutôt inquiétant au moment où le pays se remettait de cette guerre fratricide qui a déchiré le Sri Lanka.
François Dorcival, même si ce sont les autorités du Sri Lanka qui parlent d'un mouvement islamiste local, est-ce que pour vous il y a un doute là-dessus sur la nature de ces attentats extrêmement bien organisés?
Et oui, c'est précisément le mode opératoire, le mode d'organisation
qui rappelle Ben Laden,
qui rappelle Ben Laden, qui rappelle le djihad d'une manière générale, et tout ce qui arrive à la fois d'Afghanistan, des bordures du Pakistan, de l'ancienne zone du califat entre l'Irak et la Syrie, enfin tout cela fabrique du djihad à haute dose. Et donc, effectivement, on comprend que les autorités du Sri Lanka cherchent à ouvrir une enquête dans cette direction.
20h40 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Jules de Kiss.
Pour l'avocat de Carlos Ghosn, la justice japonaise s'acharne sur l'ancien patron de Renault. Il est de nouveau placé en détention provisoire aujourd'hui. Inculpé pour abus de confiance, il est suspecté d'avoir détourné 5 millions d'euros de constructeurs japonais. Un violeur présumé arrêté dans l'agglomération d'Angoulême. Il a moins de 20 ans et aurait agressé plusieurs lycéennes. Il est placé en détention. Une information judiciaire est ouverte. La justice algérienne arrête 5 milliardaires, dont des proches de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Ils ont été présentés à un juge dans le cadre d'une enquête anticorruption. Cela fait écho aux propos du général Salah à la tête de l'armée. Il a prévenu la semaine dernière que des membres de l'élite allaient être jugés. Il y sera question de la crise militaire en Libye, de la crise politique au Soudan. Les chefs d'État africains vont se réunir pour deux sommets au Caire demain en Égypte sous la houlette du président Abdel Fattah al-Sissi. Alors que Donald Trump refuse d'étendre les droits des homosexuels et des personnes transgenres aux États-Unis, la Cour suprême va se pencher sur la question. Elle accepte d'examiner trois litiges et pour les trancher, elle pourrait appliquer le principe des lois qui répriment les discriminations contre les femmes. Les 1000 maillots du PSG floqués de l'image de Notre-Dame se sont vendus en moins d'une demi-heure, annonce le club. C'est celui qu'arboraient les joueurs hier pour le match du titre contre Monaco. Les 100 000 euros tirés de la vente vont être versés à des associations liées aux pompiers.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquilini.
Avant d'évoquer l'incendie de Notre-Dame, je vous rappelle que nous sommes juste une semaine plus tard à propos des attaques terroristes survenues au Sri Lanka. Écoutez ce qu'en a dit ce matin Pascal Canfin, qui est l'ancien ministre délégué au développement, qui est aujourd'hui numéro 2 de la liste Renaissance aux européennes. Il était l'invité d'Europe 1.
Les religions partout dans le monde peuvent être des facteurs de rassemblement ou au contraire des facteurs de division. Et c'est vrai parfois sur les chrétiens qui étaient visés hier au Sri Lanka, parfois ce sont les musulmans, parfois ce sont les bouddhistes qui sont responsables, parfois ce sont eux qui sont les victimes. On a vu à l'inverse avec Notre-Dame en France la capacité finalement de rassemblement autour d'une histoire, évidemment d'un monument religieux, catholique, mais qui dépasse cette identité religieuse pour en faire une identité au fond nationale, voire universelle. Et c'est ça que je veux retenir.
Et Fleur Sensi-Stéban, cela rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Hein.
Oui, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, et puis ça nous rappelle que la France est la fille aînée de l'Église, hein, comme on le disait souvent avant, en fait, il y a très peu de temps, parce que la France et l'Église romaine entretiennent des relations qui sont aussi vieilles que le baptême de Clovis ou celui du sacre de Charlemagne. Donc notre histoire, je les déplore personnellement, ouais. Je suis laïque et athée, donc je ne peux me satisfaire de la confusion du pouvoir politique et religieux. Mais le fait est que, cette vague d'émotions suscitée après Notre-Dame, c'est ça. C'est-à-dire, en réalité, c'est le cœur de la, non pas de la nation, mais du pays qui est atteint. Et ce mouvement, et ces mouvements de dons, assez, on va en parler, hein, j'imagine.
Oui,
comment est-ce qu'on va réallouer les fonds, parce que.
Alors, vous faites bien de d'établir ce lien qu'établit aussi d'ailleurs Pascal Canfin dans l'extrait que nous avons entendu. Vous savez que la cathédrale est quasi sauvée, a annoncé Franck Riester, le ministre de la Culture, c'était samedi soir lors du grand concert qui a été donné en faveur de la reconstruction. Les points sensibles qui restaient, finalement, qui posaient des questions, semblent réglés. À quoi va servir le milliard de dons récoltés, comme vous le disiez à l'instant, Fleur Sensi-Stéban? Voici ce qu'en a dit Monseigneur Patrick Chauvet, le recteur de Notre-Dame, au micro de Marc Fauvel sur France Info ce matin.
Ce milliard, c'est pour refaire la cathédrale. Donc les travaux vont être énormes. On va avoir en gros un millier de personnes qui vont travailler sur le chantier. Ce sont des spécialistes, ce sont des compagnons du devoir. Ce milliard, je ne me rends absolument pas compte combien coûteront tous ces travaux. Mais en revanche, ce dont je suis sûr, c'est que s'il reste de l'argent, eh bien, il y aura à aider aussi la fondation de Berne.
Berne, Stéphane Berne, bien sûr, chargé de mission sur le patrimoine. Il pourrait y avoir, Patrice Moyen, de l'argent en prime en plus qui irait aux autres églises, par exemple.
Alors, je ne sais pas, mais ce qui était intéressant, c'est ce que disait Monseigneur Aupetit à la sortie de la messe de Pâques à Saint-Eustache. Il disait que mercredi, lorsque Emmanuel Macron est venu sur l'île de la Cité, il lui rappelait que, historiquement, au Moyen-Âge, à côté des cathédrales, il y avait l'Hôtel-Dieu, et que associer un projet social à cette rénovation, cette restauration de la cathédrale Notre-Dame serait extrêmement intéressant. Et puis, il rappelait aussi que la Fondation Notre-Dame accueille déjà des sans-abri, oui. que l'Église se mobilise aussi.
Déjà.
Déjà.
Oui, oui. Caroline Hardy, sur cette... Ah, pardonnez-moi, François Dorsy,
juste encore un mot. Non,
est-ce que les dons pour Notre-Dame doivent cesser aujourd'hui, et peut-être pour revenir, aller vers d'autres édifices qui sont menacés?
Moi, je pense qu'on ne prend pas du tout le problème dans le bon sens. La question qu'on doit d'abord se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut faire comme projet pour Notre-Dame? Combien de temps est-ce qu'il va prendre? Est-ce qu'on reste sur 5 ans? Est-ce qu'on va finalement, comme disent certains experts, plutôt sur 10, 15 ans ou 30 ans? Ce qui justifierait peut-être davantage quand on ait 1 milliard d'euros débloqués sur ce projet. Aujourd'hui, on ne sait pas si ça va coûter 600 millions, 800 millions. L'argent restant, est-ce qu'on le met comme étant un fonds qui va ensuite servir à entretenir Notre-Dame de Paris?
C'est comme pour la dépendance avec Patrice
Moyon. Hein, c'est un petit peu le même principe. Ou est-ce que finalement l'argent restant sera consacré à d'autres projets? Parce qu'on parle aujourd'hui d'éveil des consciences patrimoniales. Il y a même, j'entendais encore, un état d'urgence patrimoniale là, qui a été appelé à être décrété.
C'est un collectif de professionnels qui s'est exprimé sur franceinfo.fr, notre site, qui estime qu'il faut effectivement décréter l'état d'urgence patrimoniale.
Aujourd'hui, on n'a pas encore la réponse. Je pense que le débat va sans doute s'ouvrir cette semaine. Mais il y a des personnes qui ont donné qui ont fait des dons pour Notre-Dame de Paris, mais qui n'ont pas forcément, je ne sais pas moi, envie que le château de Chenonceau ou un autre édifice patrimonial.
C'est le bon sens de ce que vous dites. C'est le bon sens même. Je dois dire, j'ai été indigné de la polémique qui a éclaté la semaine dernière, de tous ceux qui disaient, mais et moi, et ma fondation, et mon association, et mon ONG, etc. Mais ce n'était pas digne. La liberté de la générosité existe encore dans ce pays. Et j'ajoute que, quant à comparer l'urgence sociale avec le fait de vouloir rebâtir ce qui a été détruit par le feu, n'a pas de sens. Pourquoi ? Parce que tous ces dons qui vont à Notre-Dame de Paris, par quoi vont-ils se traduire ? Par du travail, du talent, de la compétence, de la recherche.
Du savoir-faire.
De la transmission de savoir-faire et de l'enseignement de ce qu'est Notre-Dame de Paris. Et je ne vois pas quel était le sens de cette polémique absurde. Alors, qui a surgi. L'idée, mais attendez, il y a trop d'argent pour Notre-Dame de Paris, mais encore une fois, s'ils étaient si inventifs que cela, il y aurait aussi de l'argent pour ces œuvres-là.
Florence Esteban, vous qui adorez les vaines querelles, hein, c'est ce que vous nous dites depuis le début de l'émission, vous êtes d'accord avec François Dorcival, stop les débats d'experts autour de Notre-Dame?
Non, mais je crois
les
qu'il
anciens,
faut,
les
il
modernes.
Faut, il faut faire preuve de méthode. Je suis assez d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire, si les fonds sont suffisamment provisionnés pour aller jusqu'au bout d'une construction, qu'il en reste. Bon, il y a un patrimoine dans ce pays. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le château de Chenonceau, justement. J'étais moi-même ce matin, qui, pour le coup, est un patrimoine et un joyau du patrimoine français et qui n'a pas besoin.
Vous êtes venu avec votre dépliant dans le studio de France Info, oui.
Mais oui, pour justement montrer que si les fonds devaient être réalloués, ce serait peut-être pas à Chenonceau, mais à l'ensemble du patrimoine et des bâtiments qui, aujourd'hui, tombent en ruine dans ce pays et qui ne trouvent pas de souscripteurs. On parlait de la Fondation du patrimoine et du loto lancé par Stéphane Bern, ça peut être une idée parce que vous ne pouvez pas en réalité dévoyer l'objet du don. Le don, il est fait vis-à-vis d'un monument. S'il y a plus d'argent, on ne peut pas le réallouer au social, à l'écologie. Ça ne se passe pas comme ça. Vous ne pouvez pas détourner la volonté des donateurs.
Il y a les impôts. Oui. Alors les impôts, on ne les alloue pas. Ils ne sont pas fléchés, nos
impôts.
Bon, très bien, les impôts.
Si je me tourne vers Patrice Moyon, il ne me contredira pas. Le problème, ce sont les caisses de l'État.
Le problème, ce sont effectivement les caisses de l'État, oui. Elles sont vides. Donc, que de riches mécènes se mobilisent en faveur du patrimoine, c'est plutôt une bonne chose. Et en plus, sur le plan économique, c'est-à-dire qu'on a un patrimoine extraordinaire en France, on est la première destination touristique mondiale, et ce chantier de restauration de Notre-Dame, c'est une extraordinaire vitrine pour la France.
Et je citerai donc les signataires de cette tribune publiée sur franceinfo.fr, c'est ces professionnels du patrimoine qui disent notamment comment d'un village de quelques centaines d'habitants peut-il sauver une église lorsque les travaux de sauvetage se montent à plus d'un million d'euros. C'est à méditer, Caroline Hardy, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Peut-être que les grands ruisseaux feront des petites rivières. Pour une fois, on fera ça à l'inverse. On va peut-être détourner un petit peu le flot de dons pour essayer d'irriguer l'ensemble.
Mais au nom de quoi ?
Vous n'êtes pas d'accord, François Dorcival.
Mais au nom de quoi ? Je ne suis pas sûr que le bon Dieu soit tout à fait avec vous, là.
Allez, nous bouclons sur cette réflexion très personnelle de François Dorcival. 20h50 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Jules De Kiss.
Le Sri Lanka est en état d'urgence ce soir. Mesure décrétée par le gouvernement après les attentats d'hier. Au moins 290 morts, dont un Français. La tension reste très forte aujourd'hui. 87 détonateurs ont par exemple été retrouvés dans une gare routière. Un véhicule a aussi explosé dans une rue déserte lors d'une opération de déminage. Sauvetage toujours en cours. En Bolivie, un autocar est tombé dans un ravin de 200 mètres après une sortie de route. Il y a au moins 25 morts et une vingtaine de blessés. Un pompier du Val d'Oise sera jugé en comparution immédiate demain. Il a été arrêté samedi à Paris pendant la manifestation des Gilets jaunes. Il transportait dans son sac des cocktails Molotov, des feux d'artifice et une banderole de Black Bloc. Il lui est interdit de prendre des gardes à titre conservatoire. Enquête ouverte à Landivisio, dans le Finistère, après la découverte de tags sur la gendarmerie. De nouveaux appels au suicide des forces de l'ordre, comme ceux lancés samedi dernier à Paris par des gilets jaunes. Des croix cassées et renversées sur une soixantaine de tombes. Le cimetière de Saint-Jean de Cassagnas, dans le Gard, a été vandalisé, sûrement la nuit dernière, d'après les autorités. Et puis la grosse pomme, plus verte. La ville de New York prend des mesures drastiques pour le climat. Le maire Bill de Blasio exige des propriétaires de gratte-ciel qu'ils fassent de gros travaux d'ici 2030. Ils doivent réduire leurs émissions polluantes de 40%, sinon ils seront soumis à des amendes qui pourraient dépasser le million de dollars.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
20h, voici le résultat selon nos premières estimations. Coluche est élu président de la République. Ce scénario n'aurait peut-être pas pu se produire le 10 mai 1981, nous en avons tous le souvenir. Et pourtant, l'humoriste avait été crédité de 16% d'intention de vote et avait dû lâcher prise 2 mois auparavant, sans doute sous pression. L'élection en Ukraine de Volodymyr Zelensky avec 73,1% des voix contre le sortant Petro Porochenko. Eh bien, soulève quelques interrogations sur le dégagisme politique mondial. On écoute d'abord les premiers mots de Zelensky.
Ce n'est pas seulement moi. On l'a fait ensemble. On a unifié l'Ukraine. On a unifié nos vies. On a unifié notre peuple. Merci.
Florence Ancisteban, vous qui avez jadis participé à des soirées électorales, que vous inspire cette élection ?
Bah écoutez, en fait, je suis pas très surprise. Si vous regardez l'histoire du monde depuis 50 ans, je vais vous faire une petite devinette, Jean-François. Qui a déjà été président des États-Unis et acteur ?
Oui, mais il fut auparavant gouverneur de la Californie, hein, pendant quelques longues
Ronald
années.
Ronald Reagan.
Ronald Reagan, qui a été acteur de télé-réalité et président des États-Unis.
Oui, voilà. Donald.
Donc, je dirais, si demain Cyril Hanouna était président du pays, je le déplorerais pour mon pays, mais je ne trouverais ça pas aberrant, si vous voulez, au regard de ce que d'autres grandes démocraties peuvent produire comme président.
Mais Caroline Hardy, sur cet argument, cela peut arriver chez nous.
Je pense que contrairement à l'époque de Coluche, puisque vous citiez Coluche, je pense qu'on n'avait pas accumulé autant de déceptions politiques qui font qu'on était prêt à pouvoir envisager que finalement un entrepreneur ou du moins quelqu'un issu de la société civile puisse finalement autant avoir sa place et faire valoir des connaissances et une expertise en matière de politique. Oui, ça peut tout à fait arriver. Si on prend même l'exemple d'Emmanuel Macron, il n'avait pas été élu auparavant. Il a eu des fonctions de ministre, il avait essentiellement cette image d'entrepreneur, d'homme d'affaires, de banque, mais il était déjà dans un profil différent de ceux qu'on a pu connaître par le passé.
C'était pas un artiste, hein, tout de même.
Oui. Ce n'était pas un artiste, mais je pense qu'on peut...
Patrice Moyon.
Acteur.
Un artiste, est-ce finalement plus grave qu'un oligarque qui s'en met plein les poches, qui détourne l'argent dans ce vote massif en faveur de Zelensky, effectivement, c'est un vote dégagiste parce que les Ukrainiens, après la révolution de Maïdan, finalement, sont très déçus par ce qui s'est passé. Il y a une guerre dans le pays, dans le Donbass, avec les Russes. La Crimée a été prise annexée par les Russes. Et il y a une poignée d'oligarques qui se partagent les richesses du pays.
Oui, là-dessus, François Dorcival, vous pensez que, justement, dans la foulée de ce que dit à l'instant Patrice Moyon, vous pensez que, Zelensky va dérider Poutine?
Mais écoutez,
parce qu'il se retrouve face à Vladimir
quelle
Poutine.
Quelle était la campagne de Poutine au cours de ces dernières années? C'est-à-dire, mais qu'est-ce que c'est que ce pays qui est entre les mains de fascistes antisémites? Et ce pays élit Zelensky, qui ne cache pas du tout les origines juives de sa propre famille. Et donc, effectivement, moi, c'est pas Beppe Grillo.
Vous y voyez un signal positif.
Je n'y vois pas du tout une copie de Beppe Grillo, ni de Coluche, etc. En revanche, parce que c'est, en dehors d'être un anchorman à la télévision, c'est quelqu'un qui a aussi fait des études et qui a été en mesure de monter un parti qui s'appelle Au service du peuple, c'est tout simple, mais il n'empêche qu'il a gagné. Donc ce parti est là. Et moi, je pense qu'il est capable, en effet, de dire à Poutine, négocions.
Oui, Caroline Hardy, oui.
Il y a quand même une réelle suspicion quant à ce qu'est en réalité son programme. Il a bâti toute sa campagne, qui, je rappelle, a été une campagne. Oui, la lutte contre la corruption.
Ouais, bouche, hein.
Et puis parce qu'il a aussi, de toute façon, aussi monté en dérision la politique, j'allais dire, de l'Ukraine post-soviétique. Donc c'était les deux axes de sa campagne. Une campagne qui, rappelons-le, est une campagne éclair. On ne sait pas grand-chose finalement de cet homme, puisqu'il a déclaré sa candidature au 30 ou 31 décembre de l'année dernière. Donc, ouais, ça a été très, très vite. Et finalement, on ne connaît pas. Il a, j'allais dire, joué un peu le jeu de la stratégie miroir. Ouais. Il a eu un positionnement très flou.
Mais Bolsonaro au Brésil.
Bah, oui, mais en attendant, ça fonctionne. Et on ne sait pas vraiment pour qui
comme
on
là-bas
vote. Et je pense que les Ukrainiens ne savent pas réellement qui.
Encore un mot rapide là-dessus, Florence Sensi-Téban. On voit ce qui s'est produit, ces attaques meurtrières au Sri Lanka. Il y a le conflit que rappelait Patrice Moyon au Donbass. Est-ce qu'un novice fut-il sympathique? C'est le cas de Volodymyr Zelensky. Est-ce qu'on peut être novice avec un monde dans un tel état?
Alors là, vous prenez la question sous un angle où je ne peux pas répondre autre chose que non. Oui, la politique, ça ne s'improvise pas, et je suis la première à dénoncer systématiquement l'amateurisme et les apprentis sorciers, donc je ne vais pas vous dire que quelqu'un qui arrive inexpérimenté, sans expérience politique préalable, fait sur le papier un bon dirigeant. Mais je vous dirais, il y a la formation qui importe, et puis après, il y a l'épreuve du pouvoir, de la réalité. On va voir si ce garçon a des nerfs et la maîtrise qui lui permettra de conduire un pays qui, je vous le rappelle, est toujours en guerre.
Allez, avec vous, Patrice Moyon, quelle est la une de West France demain?
Dans les coulisses des compagnies aériennes low cost, l'envers du décor.
Et François Dorcival, la une de Valeurs Actuelles.
Mathieu Bock-Côté, le jeune philosophe québécois qui s'exprime si souvent en français, explique la situation actuelle de la France.
Merci à vous, Flore Sensi-Téban, Caroline Hardy, François Dorcival et Patrice Moyon d'avoir participé à ces informés. Pour ma part, je vous dis prochaine édition demain soir. Bonne soirée.